Nous prenons nos Bibles dans le livre des Nombres au chapitre 27. Nombres au chapitre 27. À partir du verset 15. Nombre 27, verset 15. Nous lisons. Moïse parla à l'Éternel et dit : Que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Il se présenta devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. C'est l'histoire de Josué. Et Moïse fait une prière à Dieu. Moïse devient vieux et il fait une prière à Dieu. Il dit, « Seigneur, je suis vieux et trouve-toi quelqu'un qui puisse diriger ton peuple parce que ton peuple risque de se retrouver comme des brebis sans berger. » Et Moïse était un homme de Dieu. La Bible dit dans Exode 33, verset 12, 11, 12, que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. J'aime beaucoup. Et ce passage-là, il m'interpelle. Comment un homme peut parler avec Dieu face à face? Et on dit en plus, comme si c'était des amis. Moïse avait l'Esprit de Dieu. Mais il fait cette prière. Il dit à Dieu, choisis-toi un homme. Alors la question que je me suis posée, est-ce que Moïse, au fond de lui, il ne savait pas que, ayant une certaine expérience, une sagesse dans le service du Seigneur, je pense qu'il devait savoir que Josué était celui qui allait le succéder. Mais il fait une prière à Dieu, il dit, choisis un homme qui va me succéder. Et Dieu parle à Moïse, il lui dit, j'ai choisi Josué, un homme en qui réside l'Esprit. Tu imposeras les mains sur lui et tu le présenteras devant le sacrificateur, devant toute l'assemblée, et c'est lui qui marchera, qui prendra la suite. Alors, comme on a dit tout à l'heure, Moïse était entouré. Moïse avait Aaron qui était à côté de lui. Moïse avait d'autres personnes qu'on voit plus tard, Dathan, Abiram, tous ces gens, Coré, ils étaient autour de Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai choisi, Josué pour prendre la suite. Alors la question que je me suis posée en méditant cela, c'est pourquoi Dieu a choisi Josué? Qu'est-ce qui fait que Dieu a mis son choix sur Josué? Eh bien, la raison est simple. La raison, c'est que Josué était véritablement attaché à Dieu. Josué était un disciple véritable. Un disciple, c'est celui qui a un maître, qui le suit, qui imite le maître dans ce qu'il fait. Mais l'objectif, ce n'est pas seulement, quand on parle de disciple du Seigneur, ce n'est pas seulement de s'attacher au maître, mais c'est par l'intermédiaire du maître s'attacher à Dieu. On se rappelle dans Exode 33, verset 11 que j'ai cité, lorsque Moïse sortait de la tente pour aller dans le camp, Josué restait dans la présence de Dieu. Dieu a choisi Moïse parce que Moïse était un homme Josué était obéissant. Pendant plus de 40 ans, Josué a été obéissant envers Moïse. C'est très étonnant. Pendant plus de 40 ans, on a cité tout à l'heure Aaron qui était le propre frère de Moïse. À un moment donné, il s'est rebellé. Il a dit à Moïse, mais est-ce que Dieu ne parle qu'à toi? Myriam, la sœur de Moïse, à un moment donné, elle a dit, non, mais Dieu nous parle aussi. Dathan et toute la clique, à un moment donné, ils se sont dit, mais si Dieu te parle, Dieu peut nous parler aussi. Mais Josué est resté fidèle à l'Éternel, mais il est resté fidèle aussi à Moïse, parce qu'il a reconnu en lui que Moïse était le serviteur que Dieu avait placé devant lui. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est « Ne soyons pas des chrétiens instables. » Ne soyons pas des chrétiens instables. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui s'engagent dans des voies. Et demain, c'est autre chose. Il dit aujourd'hui, Dieu m'a dit que c'est comme ça. Dieu m'a dit que je ferai ceci. Et demain, quand tu le vois, il fait autre chose. Quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui dit « Ah, aujourd'hui » et demain, qui change. C'est la même personne. Quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter. Tu fais un projet avec lui, mais demain, il te lâche. C'est ça l'instabilité. Quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui ne saura pas évaluer ce qui est nécessaire, ce qui est important, ce qui est vital. Il ne saura pas évaluer cela. Lui, ce qu'il cherche, c'est son plaisir immédiat. C'est ça la personne qui est instable. Et quelqu'un qui est instable, finalement, c'est quelqu'un que Dieu ne pourra pas utiliser comme il le veut, puisqu'il est instable. Et nous allons voir ça. Donc nous commençons par l'exemple de Josué pour montrer la constance d'un homme pendant plus de 40 ans. Ensuite, nous allons voir quelques comportements ou attitudes qui peuvent témoigner de l'instabilité d'une personne. Le but de cette prédication, c'est nous amener à être comme le Seigneur, nous amener là où le Seigneur veut. Peut-être que nous servons Dieu, peut-être que nous faisons des choses pour Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience que nous n'avons pas affaire à des hommes, nous avons affaire à l'Éternel. Et puisque nous avons affaire à l'Éternel, eh bien on sera sérieux dans ce que nous avons à faire. Et ensuite, une fois que nous allons parler des éléments qui peuvent témoigner d'une instabilité, c'est dire quelles sont finalement les conséquences de l'instabilité. Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Josué, un homme en qui réside l'Esprit. Et on ne va pas lire, il y a beaucoup de passages qui nous montrent que Josué, on cite juste son prénom, Josué, c'est tout. Lorsque Moïse, le peuple d'Israël, va combattre Amalek dans Exode 17, Dieu dit à Moïse, parle à Josué. Parle à Aaron, à Hur, qu'ils se mettent et qu'ils te soutiennent, qu'ils rassemblent le peuple. Et lorsque les mains seront levées, la victoire sera dans votre camp. Et Josué était au combat. On voit lorsque Dieu envoie des espions pour explorer la terre de Canaan. Ils reviennent, il n'y a que deux, Josué et Caleb, qui disent à Moïse, oui, nous avons vu le pays que Dieu nous promet. Les autres disent, non, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, nous sommes tellement petits, ce n'est pas possible. Un homme qui est stable, c'est quelqu'un qui a foi en la parole de Dieu. Quels que soient les événements. Parce qu'à ce moment-là, Josué aurait pu rentrer aussi, dire à Moïse, ah, là, Dieu s'est trompé. Il aurait pu être influencé par les autres. Vous vous rendez compte, prendre position contre tout un peuple, Caleb et lui, c'était prendre le risque aussi de se faire parfois même lyncher, frapper par le peuple. C'est ça un homme constant, un homme stable. C'est celui qui a foi en la parole, qui n'est pas versatile, qui ne bouge pas au gré du vent. Nous allons voir tous ces passages qui nous parlent de ça. C'est quelqu'un qui est fondé, qui est stable, comme un roc. Voilà pourquoi j'aime le psaume 1, premier, qui dit « Heureux l'homme qui ne se met pas en compagnie des méchants, mais qui médite la parole de Dieu. » Il est comment ? Il est comment ? Comme un arbre planté. Voilà, c'est ça. Un arbre, quand on le plante, on le déracine, on le met ailleurs, on le déracine, on le met ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ? L'arbre finira par mourir. Parce que les terres n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Les terres n'ont pas les mêmes propriétés, les terres n'ont pas les mêmes minéraux, les terres n'ont pas les mêmes apports. Voilà pourquoi il y a des arbres qui peuvent pousser ici en Europe, mais qui ne poussent pas dans les pays tropicaux, par exemple. Et un chrétien stable, c'est comme un arbre qui est planté. Et la suite du verset dit quoi ? Cet arbre fait quoi ? Il produit des fruits. Amen. L'arbre produit des fruits, c'est ça. Un chrétien qui est stable, il finira par produire des fruits. Le Seigneur Jésus dit, dans Jean 15, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez unis à moi, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous porterez de fruits. » Et en méditant sur ce thème, j'ai compris que, comme le Seigneur dit, il le dit lui-même dans Matthieu 9 aussi, il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais lorsqu'on regarde visuellement, on voit des ouvriers. Mais en réalité, peu sont ceux qui sont stables. Peu sont ceux qui sont stables. Un homme stable, c'est quelqu'un qui, tu reviens après 10 ans, il est toujours sur la même ligne. Tu reviens après 20 ans, il est toujours fidèle au Seigneur. Tu reviens après 25 ans, il est toujours sur la même ligne. C'est ça un homme stable. Et on voit parfois des chrétiens, 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, 30 ans de conversion. On se dit, mais il y a un problème. Mais le problème, c'est un manque de stabilité. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit que je veux faire ça. Dieu m'a dit que je veux faire ci. Dieu m'a dit. Et finalement, tu reviens, la personne n'a toujours rien fait. La personne n'a toujours rien fait. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'exemple de Josué, un homme fidèle au Seigneur. Un homme constant. Un homme obéissant aux ordres que Dieu lui donne. Aux ordres que Moïse lui donne. Aujourd'hui, quand quelqu'un est sous la houlette d'un autre, comme on se moque souvent en politique, de certains politiques, on dit lui c'est l'éternel, deuxième homme, numéro 2. Et aux yeux de ce monde, c'est une moquerie. Et finalement, comme tu es toujours le numéro 2, l'orgueil te prend et le diable vient te susurrer pour dire mais tu peux aussi devenir numéro 1. Et pour devenir numéro 1, bah, tu fais ta dissidence, tu crées ton groupe. Parce que tu veux à tout prix aussi devenir... Mais si tout le monde veut devenir numéro 1, finalement, qui sera numéro 2 ? Parce qu'il n'y a qu'une seule place. Ne soyons pas des chrétiens instables. Ce monde dans lequel nous sommes, tel que nous sommes, nous montre. Aujourd'hui, on parle de la société, on parle parfois de problèmes d'éducation. Mais tout ça est dû à quoi ? À un manque de stabilité dans l'éducation. Il y a des gens qui ont manqué le cadre familial, qui n'ont pas eu l'éducation simple, nécessaire. Et finalement, puisqu'il a manqué cette stabilité, cela se verra toujours un jour. Mais quelqu'un qui a eu un cadre, qui a eu une stabilité, comme le pasteur disait tout à l'heure, si les fondements s'ébranlent, le juste que fera-t-il ? Quelqu'un qui a des fondements solides, un jour ou l'autre, même s'il se perd, il va sur la mauvaise voie, au fond de lui, l'éducation qu'il a entendue, le cadre qu'il a reçu, va le ramener sur le bon chemin. Mais quelqu'un qui n'a pas eu de cadre, finalement, c'est la perdition. Et beaucoup de chrétiens sont instables. Nous lisons Éphésiens 4. Éphésiens 4. à partir du verset 11. Éphésiens 4, 11. Donc je lis dans la version Parole vivante. C'est une version qui est plus ou moins accessible, facile à comprendre. Verset 11. Ses dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers et d'autres comme des enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des saints, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Il nous les a donnés, ses frères, pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ et que tous ensemble, nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours les petits enfants, ressemblant à ces esquifs, ballottés par des flots et entraînés, ça et là, par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leur invention mensongère, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans notre version, dans les autres versions, c'est écrit que Dieu a établi les cinq ministères, les pasteurs, les prophètes, pour le perfectionnement des saints, afin que nous arrivions tous à l'unité de la foi, mais avec un objectif, c'est que nous devenions parfaits, mais aussi que nous devenions stables. C'est-à-dire que nous ne puissions pas être versatiles au gré, comme c'est écrit ici, ballottés à tout vent de doctrine. En vogue, j'aime beaucoup le mot qu'ils disent ici, tout vent de doctrine en vogue. Il y a des chrétiens qui disent, le pasteur est un frère comme moi. C'est ce que nous avons lu, c'est pour ça que j'aime cette version. C'est écrit, ses dons, verset 11, ses dons sont variés. Il a donné certains frères, donc en parlant de Dieu, a donné certains frères comme étant des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Et il y a des chrétiens qui disent, mais c'est que le pasteur fait, le pasteur prêche. Mais moi aussi je peux le faire. Le pasteur exhorte, mais moi aussi je suis capable de le faire. Le pasteur prie pour les gens, mais moi aussi je peux le faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais il y a une chose, c'est que si Dieu a établi ces personnes-là, c'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre, premièrement. C'est parce que Dieu a oint ces gens-là pour nous enseigner. C'est parce que Dieu a placé ces gens-là pour faire un travail en nous afin que nous puissions croître et grandir. Finalement, refuser le modèle de Dieu, c'est entrer dans quoi ? Dans l'instabilité. Voilà pourquoi beaucoup sont aussi instables, puisqu'ils refusent l'autorité que Dieu a placée devant eux. Certains vont même jusqu'à dire, ben moi je ne me réunis pas dans les églises, parce que là où deux ou trois sont réunis chez moi, c'est une église. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la Bible dit aussi qu'il est doux et agréable pour les frères de nous réunir ensemble. La Bible dit aussi qu'on a besoin d'être enseigné, d'être instruit. C'est cela. Donc si tu ne reconnais aucune autorité au-dessus de toi, donc c'est toi l'autorité qui doit aussi encadrer les autres alors dans ce cas. Mais Dieu fonctionne comme ça. Et beaucoup sont instables parce que quelque part, ils contestent l'autorité que Dieu a mise. Il dit, mais nous avons tous les mêmes ressources, nous avons tous la même source d'information. La Bible qui lit, moi aussi je lis la Bible. Oui, c'est vrai. Toi aussi tu lis la Bible. Mais ce n'est pas parce qu'on a la même source d'information qu'on a tous les mêmes rôles. Aujourd'hui, dans une classe, je pense qu'on peut se souvenir de ce qu'on était dans les écoles. au lycée ou à l'université, mais aujourd'hui, on a eu tous les mêmes profs, on a eu les mêmes cours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on fait le même travail? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la même situation? Non. C'est pas parce qu'on a la même source qu'on aura les mêmes rôles, forcément. Non. Non. Le Seigneur veut nous libérer. Entrer dans la stabilité de Dieu, c'est accepter l'autorité. Comme je parlais tout à l'heure, je disais, les jeunes ou les enfants qui ont refusé l'autorité de leurs parents, on peut voir autour de nous les témoignages, on verra l'instabilité dans laquelle ils se trouvent, parce qu'ils sont sous une malédiction. Dieu même va même plus loin même. Ils sont morts. Quoique vivants, en réalité, ils sont morts. La personne va se lancer dans un projet, il va peut-être avoir un diplôme, il va, mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche, rien qui fonctionne. Il va aller à gauche, il va à droite, il va à gauche, parce qu'il a refusé de se soumettre au modèle de Dieu. Jusqu'à ce que la personne va s'humilier. Va aller voir les parents pour dire, mon père, ma mère, j'ai peut-être fait plus d'études que toi. Je pensais être plus fort que toi, mais non, je me suis trompé. C'est cela. Mais la Bible dit aussi qu'il n'y a rien de nouveau. Cette histoire que je raconte là, c'est ce qu'on peut vivre au quotidien, mais c'est aussi dans la Bible, Luc 15. C'est cela. Beaucoup sont instables puisqu'ils contestent. Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est moi le premier, c'est l'humilité dans nos cœurs. Refuser le modèle que Dieu a mis, ça va conduire finalement à l'instabilité. Tu vas tourner en rond. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Dieu permettra aussi des fois que ça marche, mais il permettra que ça ne marche pas pour que tu te souviennes, tu dises, ah, comme ça ne marche pas, je vais demander conseil. Mais parfois, l'homme, avec l'orgueil, il est tellement têtu qu'il va perdre parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors que les choses sont tellement simples. Venir dire, bon, bien-aimé, est-ce que tu peux m'aider? Voilà la situation. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Mais beaucoup se disent, moi j'ai la Bible, lui aussi il a la Bible, donc je peux me débrouiller tout seul. Non. Dieu a fait les choses en sorte qu'on ait des modèles. Josué, pendant plus de 40 ans, avait un modèle. Moïse, est-ce que Josué n'était pas en mesure de s'occuper aussi du peuple? Est-ce que Josué n'était pas aussi en mesure de conduire aussi le peuple? Mais il est resté fidèle. Il est resté obéissant. Il est resté constant. Il est resté stable. C'est cela. Beaucoup tournent en rond puisqu'ils refusent le modèle que Dieu a placé. Humilions-nous. Dieu a fait les choses ainsi. Jésus, lorsqu'il parle, il dit, tout ce que je fais dans Jean 15, il dit, mais je ne le fais pas de moi-même. Ce que je fais, c'est parce que j'ai vu qui? J'ai vu mon Père le faire. Ce que je fais, j'ai vu, pourtant c'est Jésus qui parle. Jésus est Dieu. Mais voilà qu'il dit, ce que je fais, c'est parce que j'ai vu, j'ai observé mon Père. J'ai vu comment il fait, eh ben, c'est pour ça que je fais aussi ces choses-là. Alors imaginons quelqu'un comme Jésus, notre Seigneur, qui nous dit cela. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire moi je fais comme ça? Qui sommes-nous? C'est ça le modèle de Dieu. Dieu a fait les choses ainsi. On est dans une famille, on a des parents. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois l'enfant peut faire des études supérieures à celles de ses parents. Mais s'il est intelligent, il est sage. Il aura toujours l'oreille attentive à ce que le disent les parents. Maintenant, s'il y a des choses qui sont bonnes, potables, et pour nous qui sommes chrétiens, si ce sont des choses qui ne contredisent pas la Bible, on écoute, on prend. Et s'il y a des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis de la parole de Dieu, on ne prend pas. Et beaucoup manquent de stabilité à cause de cela. Il se dit, moi aussi je veux faire. Moi aussi je veux bâtir mon œuvre. Je veux faire une église. Tu reviens 10 jours après, non, Finalement, non. Nous lisons 2 Timothée. 2 Timothée 4. Donc là, nous sommes dans notre deuxième point. Donc nous voyons quelques points qui peuvent témoigner d'une certaine instabilité dans nos vies ou dans notre travail avec le Seigneur. Mais le but, c'est pas une accusation. Le but, c'est de se remettre en question, dire « Ah Seigneur, aide-moi Seigneur à corriger ceci afin que je sois l'ouvrier que tu attends. » Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 2 Timothée, pardon, 4, verset 1er, au verset 4. C'est pourquoi je t'adjure, en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts, ainsi que de son règne, prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, refute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Car il viendra, verset 3, un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Amen. Voilà un deuxième point qui peut témoigner de l'instabilité d'une personne, où là, nous sommes dans le cas de chrétiens, ce sont ces personnes qui sont comme dans un supermarché. Aujourd'hui, avec la prolifération, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, l'accès à l'information est tellement facile. Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, sur Internet, mais tu as à boire et à manger. Les prédications, il y a toutes sortes de doctrines. Et il y a des gens, ils sont comme dans un supermarché. Donc, il prend ce qui l'intéresse. Comme je me rappelle une personne qui avait fait la réflexion en disant, oui, mais ici, vous parlez toujours du péché. Oh, il faut parler, on peut parler de comment bâtir une entreprise, comment un chrétien doit, comment... oui, mais c'est le Seigneur qui inspire les thèmes. Et si Jésus est venu, est-ce que Jésus est venu sur la terre pour qu'on bâtisse des entreprises? Jésus est venu sur la terre pour vaincre le péché. Jésus est venu sur la terre pour nous donner le salut. Et l'obstacle au salut, c'était le péché. Il dit oui, mais on prêche toujours la même chose, on parle toujours du péché. Et une telle personne, eh ben, elle sera instable. Elle vient, bon, ça ne l'intéresse pas, bon, on va voir ailleurs. Reste à la maison, on clique sur Internet. On regarde l'église, on voit le fond d'écran, si les images, les couleurs nous plaisent, on dit bon, là je vais écouter. Et le lendemain, c'est autre chose. Le lendemain, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'ils ont la démangeaison d'entendre les choses qui sont chatouilleuses dans la version, les choses qui font plaisir. C'est ça. C'est eux-mêmes qui décident. On lui dit non, frère, sœur, voilà ce qui est écrit. Il dit, ah non, moi, ça c'est votre interprétation. Comme j'ai eu une discussion avec une sœur, le passage femme sans soumise, elle était calme. On parlait, on discutait avec les bien-aimés. À un moment, elle dit, non, vous exagérez, vous abusez. Ça, c'est votre lecture de la parole de Dieu. Ici, nous sommes en France. Vous êtes d'origine africaine. Je dis, ah! Il dit, ma sœur, si tu es chrétienne, on prend la Bible, on vérifie. Elle dit, oui, je connais ce passage. Mais ce que vous dites est empreint d'une certaine origine. J'ai dit, non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et effectivement, quand on voit cette personne, c'est quelqu'un, voilà, qui va à gauche, qui va à droite. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu même qu'on appelle des itinérants. C'est-à-dire que, il n'a pas de point de chute. Il va là-bas. Et s'il a un peu de chance, parfois, il prêche même. Mais, pour connaître une personne, il faut vivre avec elle. Il faut travailler ensemble. Si cette personne-là se trompe, fait mal, comment on peut reprendre cette personne si on ne la connaît pas? Elle vient une fois de temps en temps. Alors que tel que nous sommes ici ensemble, on se connaît. Et le fait qu'on est ensemble régulièrement, ça peut permettre de voir des points qui arrangent. On dit, bien-aimé, voilà, je t'apporte un conseil de la part du Seigneur. Voilà ce que j'ai observé. Parce qu'on se connaît, on se côtoie. Mais quelqu'un qui va de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, finalement, les gens ne le connaissent pas. Et s'il fait mal, qui va le reprendre? Personne. Le Saint-Esprit peut le reprendre. Mais au niveau des humains, ça va être difficile parce que c'est une personne qu'on ne côtoie pas. Et certains chrétiens sont devenus comme dans un shopping où on prend ce qui nous intéresse. C'est une réalité, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit dans les derniers temps, les gens vont s'attacher à des doctrines séducteurs, de démons même, il ajoute. Et dans cette version, c'est écrit avec les prédicateurs, avec une malice, ils vont prêcher des choses. Mais si toi, tu n'as pas un fondement, tu vas à gauche, à droite. On te dit, bien aimé, fais attention avec toi. Oui, mais je sais, mais tous, on n'a pas tous, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, on n'a pas tous le même don de pouvoir discerner dans des enseignements ce qui est la semence du diable dans un enseignement. On n'a pas tout ça. On n'a pas tout cela. Il y a des gens à qui on donne des conseils, on dit, ah, fais attention. Ah non, moi je vais écouter de moi-même. Parfois tu écoutes de toi-même, tu ne vois rien de mal. Mais quelqu'un qui est avisé, quelqu'un qui est un aîné, quelqu'un qui est à un fondement, qui est solide, lui il va écouter, il va te dire, ah, fais attention. Il y a une phrase là qu'il a sortie, fais attention. Oh! Beaucoup sont instables à cause de cela. Ce que je veux, ce que je décide. Moi, je vois les choses ainsi. On n'est pas obligé d'aller dans une assemblée, dans une église. On peut prier chez soi. Oui, on peut prier chez soi. On peut prier chez soi, il n'y a pas de problème. Mais la communion fraternelle que le Seigneur nous demande ici, on a besoin de cela. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, il allait dans les synagogues pour enseigner. Il aurait pu se dire, bon, je fais mon groupe avec mes disciples. L'apôtre Paul lui-même, il allait dans les synagogues. Il enseignait. Que le Seigneur nous aide. Nous allons à notre troisième point. Certains peuvent manifester l'instabilité puisque ils recherchent des solutions auprès des humains et non auprès de Dieu. Lorsque nous venons ici dans ce lieu, c'est pour adorer notre Dieu, c'est pour glorifier notre Dieu, c'est pour chercher sa face. Maintenant, dans cet objectif qui est principal, le Seigneur a mis des choses autour. Il y a l'équipe de la louange, il y a l'équipe d'accueil qui va nous accompagner pour qu'on soit à l'aise. Il y a voilà, l'adoration qui sera faite. Il y a toutes ces choses ne sont que des moyens qui vont nous aider à recevoir ce que le Seigneur veut. C'est pas ça la fin. La fin, la finalité, c'est que nous sortions d'ici avec une relation avec le Seigneur. C'est ça le but. C'est ça le but. Que nous sortions d'ici ayant reçu quelque chose de Dieu. Malheureusement, il y a des personnes, j'en connais une particulièrement, qui est le champion du Tour de France, mais d'Europe même. Ah, un tel est en Suisse. Un tel est dans le Sud. J'ai besoin de délivrance. Un tel est à Marseille. Un tel est à tel endroit. Un tel est à tel endroit. Mais la délivrance, c'est pas seulement le fait de prier pour quelqu'un. La délivrance vient aussi avec les enseignements qu'on reçoit. Jésus lui-même, il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. On peut prier pour toi, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'enseignement derrière, s'il n'y a pas un solide fondement, Eh bien, nous allons retourner, nous allons remener notre vie comme avant. Et les esprits vont revenir. Parce qu'il manque un solide fondement. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Malheureusement, les gens, certains cherchent, je ne dis pas tout le monde, certains cherchent des solutions auprès des humains. Ah, on m'a dit qu'un tel. On m'a dit qu'un tel. Si c'est le Seigneur qui t'a dit, que Dieu soit béni. Mais si toi, tu dis, le Seigneur m'a dit, le lendemain, le Seigneur t'a encore dit l'autre, le Seigneur t'a encore dit, finalement, donc le Seigneur n'a pas la puissance de te délivrer directement là où tu es, quoi. Tu es obligé de dépenser ou de faire du covoiturage, de faire pour... Mais non, le Seigneur a fait les choses simples. On se rappelle de cette femme dans Jean au chapitre 8 qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Il est écrit, elle a tout dépensé. Auprès des médecins, sûrement auprès des guérisseurs, auprès, elle est allée partout, à gauche, à droite. 12 ans de sa vie. 12 ans. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, si je peux toucher le Seigneur, je serai guéri. Elle est allée, elle a touché le pan de son vêtement. Le Seigneur dit, qui m'a touché? La foule dit, mais les disciples, mais regarde tous ceux qui sont autour de toi. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est cela. Lorsque nous venons en ce lieu, venons pour nous attendre au Seigneur. Venons pour recevoir la parole que Dieu veut nous donner. Et quand on vient dans cet objectif-là, ben le Seigneur va se révéler à nous, quel que soit l'instrument, quel que soit le moyen, il peut se servir même d'un enfant pour te dire une phrase. Et cette phrase-là, c'est comme, ça fait comme un déclic en toi. Mais quand tu viens, tu as déjà décidé au fond de toi, tu dis, ah, aujourd'hui, j'espère que ce sera un tel qui va prêcher. Tu arrives, ce n'est pas ça, bon, dis bon, là, c'est foutu. Mais comment tu peux recevoir du Seigneur? Quand on vient et on s'attend à Dieu, ben le Seigneur peut agir. Jésus a dit, vous entendrez que je suis là-bas à gauche, je suis à droite. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? N'y allez pas. Et ça, c'est un des témoignages aussi qui manifeste une certaine instabilité. Certains sont instables. Un autre point, nous lisons dans Luc, dans 1 Roi d'abord pour commencer. 1 Roi au chapitre 13. Donc c'est l'histoire du jeune prophète qui a été envoyé par l'Éternel auprès de Jéroboam et qui a reçu des instructions claires et précises de la part de l'Éternel. 1 Roi 13. On peut commencer au verset 7 pour comprendre un petit peu le contexte. 1 Roi 13, verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin il s'en était allé et par quel chemin s'était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne. et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais l'homme lui répondit, « Je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison. » Et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Amen. On peut s'arrêter là. Voilà. Il y a une catégorie de personnes aussi qui sont instables. Pourquoi ? Puisqu'ils s'attachent à tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est extraordinaire. L'ordre a été clair. Dieu parle à l'homme de Dieu clairement. Il lui dit, voilà, tu vas voir Jéroboam. Tu as accompli la mission, tu changes de route, tu ne t'arrêtes chez personne. Et l'homme obéit dans un premier temps. Mais voilà qu'un vieux prophète, un vieux, déjà on dit vieux, c'est-à-dire que donc dans le vieux, il y a tout ce qui implique donc l'expérience, la sagesse, la maîtrise, les conseils, toutes ces choses. Et c'est impressionnant. L'homme vient lui dire, mais tu es prophète, mais moi aussi je suis prophète comme toi. Moi, un ange m'a parlé, il m'a dit de venir te parler, de venir te voir pour que tu viennes chez moi. Voilà. Alors que l'homme a reçu l'instruction claire de Dieu, et même avec un raisonnement simple, entre Dieu et l'ange, ben, qui est au-dessus hiérarchiquement? Qui est au-dessus hiérarchiquement? Mais c'est Dieu, les anges sont des envoyés du Seigneur, au service de Dieu. Mais comme c'est un ange, c'est surnaturel. Il dit, l'ange est venu, il m'a parlé. Viens chez moi. Certains chrétiens sont attachés à tout ce qui est prophétie. Ah, dans cette assemblée, on ne prophétise pas beaucoup, hein. Moi, j'aime quand il y a des manifestations. Moi, j'aime quand il y a des sensations. Le Seigneur peut faire ces choses, il n'y a pas de problème. On n'est pas contre cela. Et même si le Seigneur fait ces choses-là, ce n'est pas pour assurer un spectacle. Quand il fait ces choses-là, c'est pour qu'on voit, on dit, ah oui, réellement, Dieu agit. Dieu libère. Donc tout ce que Dieu fait doit nous ramener à sa parole, à sa grandeur, à sa puissance. C'est ça. Quand Pierre et Jean voient cet homme dans Acte 3, la foule vient, ils disent, mais oh, quel gens extraordinaire. Il dit, mais homme frère, mais pourquoi vous êtes étonnés? Nous sommes des hommes faits de chair comme vous. Qu'est-ce que vous voyez d'extraordinaire? Ce miracle-là, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est Jésus qui a fait ce miracle afin que vous croyiez qu'il est le Fils de Dieu, le Messie qui a été envoyé pour sauver les hommes. C'est ça l'objectif. Beaucoup sont spécialistes. Ah, Dieu m'a dit. En plus, quand on dit Dieu m'a dit là, comment tu vas contredire? Comment tu vas contredire? La personne t'a déjà verrouillé. C'est Dieu qui m'a dit. Alors que la parole est là, la parole est simple. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de doctrines. Les gens sortent de complications. Je ne peux plus faire ci, je ne peux plus manger ci, je ne peux plus utiliser ça, je ne peux plus... Mais restons simples. Suivons la parole de Dieu. Amen. Suivons la parole. Je connais une secte à l'époque, quand j'étais au pays, qu'on appelle les branhamistes. Et les branhamistes, c'est une branche qui suit leur prophète, un faux prophète, Branham. Et dans cette branche, il y a plusieurs obédiences, il y a plusieurs mouvements. Il y en a qui sont radicaux, mais radicaux, c'est-à-dire que les volets doivent être fermés, on ne regarde pas l'extérieur, pas de télévision, les femmes, c'est les vêtements toujours jusqu'aux pieds, c'est mais rigueur, rigueur, rigueur. Mais dans le même mouvement, là, il y a une scission parce que les autres disent, mais finalement, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que la télévision va faire? Ce n'est pas parce que je regarde la télévision, ou même si je regarde la télévision, je peux sélectionner, je peux choisir ce que je veux regarder. Il y a des gens, à la suite d'enseignements, de révélations, parce qu'ils fonctionnent beaucoup dans la révélation. Ils disent que la révélation, c'est plus que les écritures. C'est ça la doctrine du branhamisme, c'est la parole révélée. C'est ce qu'ils disent, le réma. Réma, 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 réma. Jusqu'à ce qu'il y a un de leurs chantres qui dit la révélation est plus forte que les écritures. Elle vient de la voûte céleste. Voilà où on en arrive. La révélation est plus que les écritures. Et en plus, ils ont des passages pour démontrer ça. Ils ont des passages pour démontrer, pour dire que le peuple d'Israël avait interdiction de s'unir dans le mariage, par le mariage avec des étrangers. Mais ils vont te donner des exemples des personnes dans la Bible pour dire que même si Dieu avait donné ça dans la loi, mais la révélation de Dieu a été au-dessus. Ils vont te prendre l'exemple de Samson, ils vont te prendre l'exemple de tel, de tel, de tel, de tel, pour te dire que oui, c'est écrit, mais Dieu peut te révéler aussi quelque chose qui est au-dessus de ce qui est écrit. Quand Dieu nous révèle les choses, ça sera toujours en fonction de ce qui est écrit. Et même si on ne comprend pas, si on est humble, on va s'arrêter pour dire, ah, mais Seigneur, mais c'est écrit comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui tu fais comme ça? Si on est humble et sincère, Dieu va nous expliquer, on va comprendre. Et en disant ça, je parle de qui? Je parle de Pierre, dans Actes des Apôtres, où le Seigneur lui dit, tu vois ce que tu vois là, tu et mange. Pierre dit, mais non, mais Seigneur, c'est impur. Dieu dit à Pierre, mais qui décide ce qui est impur ou ce qui est pur? C'est moi qui décide. Pierre n'a pas compris sur le coup. La religion, les traditions étaient tellement sérieuses. Mais aimant le Seigneur, aimant Dieu, il a compris que mais finalement, si le Seigneur est venu, c'est pour sauver tous les hommes. C'est pour sauver tous les hommes. Il a finalement compris ça. Ce que lui considérait comme impur, qu'il ne pouvait pas toucher, Dieu lui dit non. Mon fils Jésus-Christ est venu pour les païens. Les non-juifs aussi. C'était cela. Et beaucoup, malheureusement, sont des professionnels. Professionnels. Je connais une personne. Tu lui apportes la parole de Dieu. La personne, c'est une personne mariée, mais tout le temps, c'est séparation. Se remet ensemble, séparation. Se remet ensemble, séparation. Et tout ça, ce sont des enseignements qu'elle reçoit. On te dit, ah, si ton mari est comme ça, bah voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Et quand tu discutes avec elle, elle dit, oui, tu m'as parlé. J'ai eu un songe, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas mon mari. Ah! Donc c'est par songe que le Seigneur t'a dit ça. D'un côté, tu discutes avec la personne, elle est convaincue d'être chrétienne. Convaincue totalement. On se dit, mais comment on en arrive là? Parce qu'on refuse de suivre la parole de Dieu telle qu'elle est simple. Telle qu'elle est simple. Acceptons la parole de Dieu, acceptons le Seigneur tel qu'il s'adresse à nous. Acceptons cela. Cet homme a reçu l'instruction claire de Dieu, mais il s'est laissé influencer. Impressionné. Et la Bible nous dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Le diable, les miracles, il peut les faire aussi. Il peut les faire. Nous, dans notre raisonnement, on se dit, mais non, si la personne a été guérie, ça ne peut pas être le diable. Mais si, le diable peut faire aussi ça. Et même, nous, on voit que c'est une guérison. En réalité, les démons ont juste changé de place. Mais la seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est l'amour. Le reste, bien parler, les hommes politiques, est-ce qu'ils sont des pasteurs? Non. Mais parfois, quand il parle, il y a des gens parfois qui tombent même évanouis. On a vu à l'époque avec les Michael Jackson, des gens qui tombent en transe. Est-ce que c'est parce qu'il y a ces manifestations-là que ces gens-là sont de Dieu? Non. Donc les manifestations, ça peut arriver, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est de Dieu. Et il y en a qui sont friands de cela. Quand il faut prier, il y a des mots qu'il faut dire dans la prière. Et quand je n'ai pas prié selon les mots là qu'on m'a dit, mon frère, ma soeur, comment ça va? Ah! On n'est pas satisfait. Non. Le Seigneur veut nous délivrer de cela. Le Seigneur veut nous délivrer. Jésus dit dans Matthieu 7, celui qui écoute, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, il est semblable à qui? À qui? À un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent va souffler. Les tempêtes vont venir. Il reste sable. Stable. C'est ça. Ne soyons pas instables. Nous voyons maintenant les conséquences de l'instabilité. Nous lisons Luc au chapitre 9. Luc au chapitre 9, au verset 57. Donc je lis toujours dans la version Parole vivante, Luc 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où il puisse se coucher et se reposer. » Jésus appela un autre, « Viens avec moi. » Cet homme lui dit, « Excuse-moi, Seigneur, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont spirituellement morts le soin d'enterrer leur mort. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je veux devenir ton disciple, Seigneur, et te suivre, mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, celui qui commence à labourer et regarde derrière, lui n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Voilà cette histoire. Avant de parler des conséquences de l'instabilité, il y a encore un point qui me vient en lisant ce passage. C'est qu'on voit aussi que certains sont instables dans leur marche avec le Seigneur, puisque ce sont des gens qui exigent des choses à Dieu. Dieu, je veux bien te servir, mais avant que je te serve, je veux d'abord que ceci soit réglé dans ma vie. Je veux d'abord, Seigneur, que tu arranges telle situation. Non. On ne peut pas exiger des choses à Dieu. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est eux d'abord. Dieu, occupe-toi d'abord de moi. Et ensuite, moi, je veux m'occuper de toi. C'est ce qu'on vient de lire là. Le Seigneur dit non, tu n'as pas compris. On a eu un échange avec des bien-aimés. Et la personne disait, bon, moi, l'autre posait la question, mais pourquoi tu ne t'engages pas dans le service du Seigneur comme n'importe qui? Elle dit, oui, moi j'ai mon appel à moi. Et dans mon appel, moi je fais les choses telles que, voilà. L'autre lui dit, oui, mais même si tu as l'appel, il n'y a pas de problème. Mais dans cet appel-là que tu as, principal, le Seigneur peut aussi permettre que tu t'engages dans quelque chose, le temps de te former pour que tu arrives dans cet appel-là, balayer, je ne sais pas, chanter à la chorale. Et non, moi, les gens, non, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Lorsqu'il faut s'engager pour le Seigneur, on dit qu'on aime le Seigneur. Mais comment peut-on dire qu'on aime le Seigneur si on ne veut pas s'engager pour lui? C'est ce que ces gens disent, « Oh Seigneur, je te suivrai. » Jésus dit, « Attention, moi je suis le Fils de Dieu, mais je n'ai même pas d'endroit où dormir. » Les renards ont des tanières. En réalité, si nous aimons Dieu, cela va se manifester aussi. Alors je ne dis pas que tous ceux qui servent dans une équipe aiment trop Dieu. Oui, c'est possible. Mais si on aime Dieu, servir le Seigneur fera aussi partie, ça manifestera aussi l'amour que nous avons pour le Seigneur. Ça va de soi. Ça va de soi. Quand on aime Dieu, eh ben on a le souci. On se rappelle de l'histoire de David. David est dans son palais. Il est triste. Nathan lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, moi je suis un homme. Je suis dans un palais. Et Dieu réside dans une tente. Il dit, c'est injuste. Il dit, moi je vais construire une maison pour l'Éternel. Nathan lui dit, fais comme tu as résolu dans ton cœur. C'est après que Dieu parle à Nathan pour lui dire, non, j'ai vu le souci qu'il a, mais ce sera Salomon, son fils, qui construira le temple. Mais c'est ça, quand on aime Dieu, finalement, ça va finir par se voir d'une manière ou d'une autre, parce que l'amour déborde. Et ça, je nous dis aussi, ne pas s'engager pour l'œuvre de Dieu, ça va nous maintenir dans une instabilité. Pardon. Ça va nous maintenir dans une instabilité. C'est cela. Il y a des chrétiens, c'est vraiment le quota. Il a son quota pour Dieu dans la semaine. C'est dimanche, il arrive à 10h30. Il écoute la parole à 11h30. Allez, c'est fini. Il rentre chez lui. Son quota de la semaine est terminé. Non. Quand on réalise qui est Dieu, quand on voit ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et c'est ce que David dit, c'est ce que le pasteur disait tout à l'heure en priant pour les offrandes, il dit en réalité, ce que nous t'apportons, Seigneur, c'est ce qui vient de toi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Quand on réalise qui est Dieu, eh bien, on ne peut pas rester à côté, regarder les autres, dire, bon, ça, c'est pas mon église. Il y a même des gens qui disent, votre église. Ah, votre église, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Non. Quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un de sérieux. C'est ça, un disciple. C'est ça, un disciple. Et donc, ça, c'était notre parenthèse. Nous revenons maintenant sur les conséquences de l'instabilité. Le Seigneur appelle ces personnes. L'autre dit, Seigneur, j'ai telle chose à faire. J'ai mon père qui est mort. Il faut que je m'occupe des obsèques. Et j'aime beaucoup cette version où on dit, le Seigneur dit, laisse à ceux qui sont morts spirituellement le soin d'enterrer leur mort. Le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on puisse participer à ces choses-là. Mais il dit, nous, on doit considérer que la priorité, c'est de sauver les âmes. C'est cela. Le monde nous montre qu'un médecin, même s'il est éprouvé, s'il travaille, eh ben, il est d'astreinte, il vient travailler. Il vient travailler, puisque dans le serment qu'il a fait, le serment d'Hippocrate, c'est sauver des vies, c'est cela. Il y a combien de plus fortes raisons, nous qui sommes enfants de Dieu. L'autre dit, Seigneur, oui, je veux bien te suivre, mais je veux d'abord régler les affaires de ma famille. Je veux d'abord m'occuper. Or, à ce moment-là, le Seigneur a besoin de toi. La première conséquence, c'est quoi? Quand quelqu'un est instable, eh ben, finalement, on ne peut pas compter sur lui. C'est aussi simple que ça. Comment tu veux compter sur quelqu'un qui peut te fausser compagnie du jour au lendemain? Comment tu peux compter sur une telle personne? Tu ne peux pas. C'est là maintenant qu'on répond à la question, pourquoi, une des raisons qui fait que Dieu ait choisi Josué, c'est parce que Josué était un homme constant dans sa marche. Aaron était là. Mais un jour, Aaron a dit non, 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 non. Myriam était là aux côtés de Moïse, ils ont dit non. Dathan, tous les autres, ils ont dit non, 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 c'est bon. Nous aussi, on veut aussi faire des choses. Mais il y en avait toujours un, Josué, qui était là, obéissant. Et Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Josué, un homme en qui il y a l'esprit. Il y a mon esprit. Quelqu'un qui est instable, on aura du mal à compter sur lui. On aura du mal à compter sur lui. Il y a des gens, tu fixes rendez-vous avec lui, tu sais que dans ta tête, il ne sera pas à l'heure. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Si c'est le cas pour nous aujourd'hui, repentons-nous. Il y a des gens, ils sont spécialistes. Donc tu prends rendez-vous dans tous les cas, tu sais que même 10 minutes, déjà 10 minutes là c'est un exploit, mais tu sais que dans tous les cas, la personne sera en retard. Si c'est le cas, ça montre qu'il y a une instabilité, il y a un manque de sérieux. Pourtant, ça ne veut pas dire que la personne n'aime pas le Seigneur. Oui, la personne aime le Seigneur. Mais quand on a besoin d'elle, bon, on ne peut pas compter parce qu'on se dit, ah, je prévois tel, mais je prévois quand même tel en route de secours. Parce que je ne sais jamais, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas normal. Et c'est ce qui arrive. Le Seigneur appelle, il dit, j'ai besoin de toi. Il dit, maître, je veux bien. Mais regarde, je vais dire au revoir aux gens de ma famille. Ah, le Seigneur dit, ah là là. Ah là là, c'est malheureux. Quelqu'un qui est instable, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura du mal à compter sur lui. On aura du mal même à lui confier certaines responsabilités. Puisqu'on sait que du jour au lendemain, il peut venir pour te dire, bon, ah, bon, moi je vais prendre ma route. Mais on dit, mais on a fait un projet ensemble, mais on fait des choses ensemble, mais comment tu... Mais c'est ça. C'est ça. Le Seigneur dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. En réalité, il y a très peu qui ont pris conscience que c'est de Dieu qu'il s'agit. Bien souvent, on se limite à nous-mêmes. Une forme d'orgueil ou, pardon, d'égoïsme. On voit d'abord moi comme ces gens-là. Seigneur, permets d'abord que je fasse ça. Permets d'abord que je fasse ça. Bien-aimé, on a un concert. Ah, j'ai mal aux pieds. L'autre, ah, bon, je suis un peu fatigué. Bien-aimé, ce sont des raisons qui ne sont pas valables. Maintenant, je ne dis pas que tout celui qui dit ça ne dit pas vrai. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est entre nous et le Seigneur. Ça, c'est entre nous et le Seigneur. Mais bien souvent, parfois, on sort des excuses qui ne sont pas consistantes devant Dieu. Qui ne sont pas consistantes devant Dieu. Et pour nous aider maintenant à remédier à ça, que faire? Mettons-nous un peu à la place du responsable. Quand toi tu appelles pour dire, bon, je suis fatigué, je vais rester me reposer chez moi. Imagine que tout le monde... À ce moment-là, dit aussi ça. Le pasteur arrive, il dit, bon, moi je suis fatigué, je vais aller faire la sieste. Parfois, quand on se met à la place de l'autre, on comprend, on se dit, non, c'est trop léger. Ce que je fais là est trop léger. Amen. Amen. Parfois, quand on se met à la place de l'autre, parce que souvent, on se dit, bon, il y a un tel qui est là, il y a un tel qui est là, il y a un tel qui est là, bon, ils vont gérer, il n'y a pas de problème. Mais un jour, tu seras aussi à la place du dirigeant. Et c'est là que tu vas te dire, ah, c'est difficile. Ah ben oui, c'est comme ça. Quelqu'un qui est instable, on aura du mal à compter sur lui. Le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il sera fidèle dans le grand. Si tu n'es pas fidèle à ce qui est autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Luc 16, 10, amen. C'est cela. C'est cela. Et quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est sérieux sur ces choses-là. Alors, ce n'est pas une condamnation. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, qu'il peut nous changer, il peut changer notre cœur, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi je suis connu comme étant toujours en retard, quoi. Mais c'est comme si c'est devenu un esprit qui t'habite, quoi. J'ai dit, mais c'est grave. Donc toi-même, tu confesses ça, comme, ah, moi je suis connu comme ça. Et pour peu qu'on vive ou qu'on travaille avec des païens, ils vont se dire, ah, voilà, c'est ça le chrétien. Voilà, c'est ça le chrétien. Non. Quelqu'un qui est instable, on aura du mal à compter sur lui. Jésus dit à ces gens, j'ai du travail. Venez, vous dites que vous m'aimez, suivez-moi, on va travailler. Ils disent, ah, maître, je finis d'abord ce que j'ai à faire. Après, on verra. Le Seigneur dit non. Non. Quelqu'un qui est instable, finalement, il devient inutile pour le Seigneur, puisque le Seigneur ne peut pas l'utiliser. Il est inutile. Il est inutile. Quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un, comme on a lu dans Éphésiens 4, qui finalement va être emporté par toutes sortes de doctrines. Il va être emporté par toutes sortes de doctrines. C'est ça. Tu écoutes là-bas, on te dit ça. Tu écoutes sur Internet, l'autre qui a eu sa révélation, je ne sais pas comment, il te dit ça. Tu viens ici, tu écoutes, on te dit ça, mais finalement, tu es perdu. Il y a des chrétiens parfois qui sortent des théories, on dit, mais ouais, d'où vient ça? Mais oui, mais c'est, voilà. Il pioche à gauche, il prend dans un livre, il prend dans un autre, il prend dans tel. Finalement, il peut se faire habiter même par des esprits. Et il y en a qui arrivent même à avoir des positions, mais étonnantes. Ah bon, moi je ne fais plus ça. Si c'est par le Seigneur, c'est le Seigneur qui te le dit. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Et malheureusement, beaucoup sont instables comme ça, parce qu'il y a toutes sortes de théories dans la tête. Alors que la parole de Dieu est tellement simple. Quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui passe à côté des bénédictions que le Seigneur réserve à ses enfants dans la communion fraternelle. Psaume 133. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. C'est cela. Mais quelqu'un qui a un coup ici, un coup là-bas, un coup... Lui, il a l'impression qu'il amasse beaucoup. Mais en réalité, il n'amasse rien du tout. Il n'amasse rien. Mais celui qui a un endroit comme un arbre, qui est planté, qui reçoit, finalement, il est béni par le Seigneur. Et finalement, quelqu'un qui est instable... C'est quelqu'un qui va finir par mourir. Comme on a dit, l'arbre qu'on plante, qu'on déracine, qu'on plante à gauche, qu'on déracine, qu'on plante, finalement, l'arbre va finir par mourir et les racines ne produiront plus rien du tout. Plus rien. Et le Seigneur veut aujourd'hui que nous sortions de l'instabilité. Et comme on a dit, quelqu'un qui est stable, on a vu l'exemple de Josué, c'est un homme obéissant à la parole de Dieu. Disciple de Moïse. Il a reconnu en Moïse son autorité et il a reconnu que c'est Dieu qui l'a placé là. Il y a des gens qui disent, pasteur, je reconnais, Dieu m'a dit que tu es mon autorité. Mais dans les faits, quand on voit les choses, ce n'est pas le cas. Il a d'autres autorités dans sa vie ou c'est lui-même qui est l'autorité aussi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui est stable, c'est celui qui se contente de ce que Dieu lui donne. Il se contente de cela. Puisqu'il sait, même si ce n'est pas beaucoup, mais dans le peu là que j'ai reçu, le Seigneur m'a béni. C'est ça. Quelqu'un de stable. Quelqu'un de stable, c'est celui qui a foi en Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui, oh la louange était bonne, ah la parole, alléluia. Et demain tu le vois, tu lui apportes la même parole, il dit, ah, je quitte l'église. Non, quelqu'un qui est stable, comme Josué encore une fois, c'est celui qui est attaché à Dieu. C'est celui qui est attaché à Dieu. Sa propre personne ne compte plus. Oh, dans cette église-là, voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on m'a fait. Il n'y a pas d'église parfaite sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais nous, on peut travailler, on peut contribuer à aider les bien-aimés si on retrouve ou si on trouve qu'il y a un déficit, un manque d'amour. Bah, produisons l'amour. Donnons l'amour. Comme le Seigneur dit ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, mais faites-le. Et en faisant, le Seigneur va toucher aussi les autres. C'est cela. Ah, moi je pars. Mais là où tu vas, là, tu vas trouver l'amour. Si c'est le cas, que Dieu soit béni. Mais le Seigneur veut que nous soyons stables. Il veut que nous soyons constants. Il peut y avoir des différends. Il peut y avoir des choses incomprises. Josué est resté auprès de Moïse pendant 40 ans. Peut-être qu'ils n'ont pas été d'accord sur tout. C'est possible. C'est possible qu'ils n'aient pas été d'accord sur tout. Mais dans ce cas-là, on s'attend à Dieu. On dit, bon, Dieu va départager. Moi, j'ai dit ce que je pensais être correct par rapport à la parole de Dieu. Bon, maintenant, le Seigneur tranche. C'est ça. Le Seigneur veut que nous puissions être stables pour le servir. Il veut que nous puissions être constants dans le service qu'on a à faire pour lui. Nous, nous avons notre part à nous, c'est d'accepter cela. Et Dieu, lui, il a sa part de nous fortifier. Il y aura des moments où on sera faible. Et la Bible dit dans Romains 15, ceux qui sont forts, ils seront là pour nous soutenir. Pour dire, bien-aimé, tiens bon. Le Seigneur est vivant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur. Et Seigneur, merci pour cette parole qui nous parle à nous tous, Seigneur. À moi, premièrement, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides, Seigneur, à être stables. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi. À l'exemple de Josué que nous avons vu, Seigneur, qui est un enseignement pour nous en termes de fidélité, d'humilité, parce que être sous la responsabilité d'une personne pendant 40 ans, aujourd'hui, Seigneur, il y a parfois même des couples qui ne se supportent plus. Mais Josué est resté pendant plus de 40 ans, fidèle, humble, à apprendre, à recevoir, à être enseigné. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi. Seigneur, libère-nous de toute forme d'instabilité dans nos vies, Seigneur. Libère-nous de toute forme d'instabilité, Seigneur. Parfois, nous faisons des projets, mais nous n'allons pas au bout de ces projets parce que nous avons été instables. Peut-être que nous avons manqué de sérieux. Peut-être que nous sommes arrêtés à notre propre personne. En pensant d'abord à nous avant de penser à ton œuvre. Comme nous l'avons vu dans Luc 9. Seigneur, si nous pouvons te servir aujourd'hui, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons, Seigneur. Alors nous voulons te servir avec sérieux, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux nous aider, Seigneur, à demeurer stable dans la marche avec toi. Tu as fait une promesse éternelle. Tu as dit, je ne te délaisserai point. Tu as dit, je ne t'abandonnerai jamais. Nous voulons nous appuyer sur ces promesses. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Seigneur, aide-nous, toi qui es le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ.